VOA Afrique, le monde aujourd'hui.
Bamako, à l'heure d'une attaque terroriste meurtrière perpétrée très tôt ce matin, une prise d'otage a pris fin à l'hôtel Radisson. Les forces spéciales maliennes ont donné l'assaut, aidées par des commandos américains et français.
Nous sommes au service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré qui a reçu 6 blessés.
Tout à fait, au début je pensais que c'était des pétards ou quelque chose comme ça. Je ne pensais pas que c'était une prise d'otage. Ensuite, ça a continué.
Bonsoir Jacques Aristide et Nathalie Barge avec vous. Édition spéciale sur VOA Afrique en ce vendredi 20 novembre 2015. En ligne dans un instant depuis la capitale malienne, notre correspondant Kassim Traoré.
À venir, le fil des événements, les réactions, analyses et commentaires. Et en fin d'édition, un tour d'horizon de l'actualité ailleurs en Afrique et dans le reste du monde.
L'hôtel Radisson de Bamako a été le théâtre pendant plusieurs heures ce vendredi d'une prise d'otages, des otages qui comprenaient des Maliens et des étrangers. Un bilan provisoire faisait état d'au moins 3 morts, mais une source sécuritaire citée par l'AFP affirme que 18 corps ont été retrouvés dans l'hôtel. Un certain nombre de personnes avaient réussi à quitter l'établissement situé à l'ouest du centre-ville de la capitale malienne après l'assaut donné en milieu de journée par les forces spéciales maliennes.
Oui, des soldats d'élite américains et français ont également été mobilisés. Sans plus tarder, cap sur la capitale malienne où nous attend notre correspondant Kassim Traoré. Kassim, quelles sont les dernières informations dont vous disposez? L'assaut est-il terminé?
L'assaut est terminé, mais la force spéciale malienne continue de tourner dans les bâtiments, c'est-à-dire au niveau de l'hôtel Radisson. En tout cas, le ministre malien de la Sécurité nous a fait savoir qu'il y avait au moins 45 Maliens à l'hôtel Radisson, 15 Français, 6 Américains, 4 Algériens, 4 Turcs, 4 Chinois, 2 Ivoiriens, 1 Sénégalais et 1 Espagnol. Donc c'est vous dire que le bilan est en cours de traitement au niveau du ministère de la Sécurité. Un ministre qui va s'adresser aux Maliens dans la soirée parce qu'il est en train de concocter toutes les informations par rapport au nombre exact des assaillants, même si au final c'est 2 qui ont été neutralisés au niveau du 7e étage de l'hôtel Radisson Blue. En tout cas, ici, plus de peur que de mal, même si le bilan est lourd. Pour le moment, le ministre nous a dit qu'il ne peut pas nous confirmer ou nous infirmer les 20 morts, mais tout porte à croire que le bilan risque d'aller au-delà de ces 20 morts, car l'hôtel continue d'être surveillé par les forces de sécurité maliennes.
Et Kassim, d'après Reuters, l'attaque aurait été revendiquée sur Twitter par les djihadistes d'Al-Morabitoun, un groupe se réclamant d'Al-Qaïda. L'authenticité de cette revendication a-t-elle pu être vérifiée?
Pour le moment, ce n'est pas vérifié. Vous savez qu'au Mali, pour la revendication des attentats, les Maliens n'accordent pas beaucoup d'importance et ils se consacrent sur les faits, ce qui s'est passé, l'impact sur la population. Aujourd'hui, imaginez que c'est le quartier administratif, le cœur du quartier administratif de Bamako qui a été atteint. Tout a été bloqué, pas de commerce, pas de travail. Les écoles ont été fermées, les banques, c'est vendredi. Ça a été un chamboulement total au niveau de la cité administrative du Mali. Donc c'est cela que les Maliens voient plutôt. Maintenant, pour ce qui est de la véracité de la revendication, cela n'est point surprenant dans la mesure où les membres d'ACMI sont implantés au Mali. Il y a de cela plus d'une quinzaine d'années. Ils ont des ramifications partout. Mali, Bamako n'est pas sa première attaque, mais on peut dire que cette attaque a un bilan très très lourd dans la capitale malienne.
Et vous confirmez, Kassim, que le président malien Ibrahim Boubacar Keïta est rentré d'urgence du Tchad où il participait au sommet des chefs d'État et de gouvernement du G5 Sahel.
Oui, les premiers propos propos du chef de l'État à l'aéroport de Bamako, c'est des remerciements à la communauté internationale, à tous les amis qui ont aidé le Mali à traverser ce moment difficile. Il a aussi salué le professionnalisme des forces de sécurité et les forces spéciales américaines et françaises qui ont aidé les militaires maliens à venir à bout de ces terroristes aujourd'hui.
Kassim, est-ce que l'on en sait un petit peu plus tout de même sur le sort des otages, hein, parce qu'on a des chiffres assez flous jusqu'ici au niveau du bilan. Est-ce qu'il y a des blessés notamment?
Oui, il y a des blessés. Certains blessés ont été répartis entre deux hôpitaux. Le principal hôpital de Bamako, c'est l'hôpital Gabriel Touré qui se trouve un peu vers le centre de la capitale malienne même. Il y a environ une dizaine qui ont été acheminés vers cet hôpital. C'est aussi qu'il y en a certains qui ont été amenés au niveau de l'hôpital du Mali. Il y a un hôpital aussi de référence dans la capitale malienne. Mais tout cela pourra être détaillé par les ministres qui détiennent les chiffres. Parce qu'après avoir été retiré des feux des djihadistes au niveau de l'hôtel Radisson, tout le monde a été recensé au niveau du palais des sports de Bamako où le procureur de la République était installé là-bas afin de faire l'identité parfaite et complète de toute personne qui avait été prise en otage au niveau de l'hôtel Radisson, que ce soit les blessés, les victimes ou ceux qui sont en vie actuellement.
Voilà Kassim, vous suivez la situation de très près pour nous à Bamako. Merci. Je me tourne maintenant vers notre collègue Idriss Fall. Idriss, vous connaissez Bamako, vous avez séjourné au Radisson Blue. Êtes-vous étonné que des hommes armés aient pu entrer dans cet hôtel ?
Non, parce que Hatim l'a signalé, les djihadistes sont présents au Mali depuis les années 90. Et pour entrer à l'hôtel Radisson, c'est très simple, c'est-à-dire que c'est une rue à sens unique. Il y a des barrières à l'entrée, il y a des vigiles qui ont des armes. Généralement, ils vous regardent, ils ouvrent le coffre et que donc vous pouvez entrer au Radisson. Et on m'a été dit que en fait les gens qui ont les auteurs présumés de cette attaque sont venus avec une plaque d'une voiture. Ils ne savent pas si c'est diplomatique, mais en fait que les gens ne savaient pas. C'est comme ça qu'ils ont pu entrer en hôtel. Et en hôtel aussi, c'est ça. Même si le Radisson, on ne peut y entrer que par une seule voie, mais les hôtels, c'est fait pour recevoir des clients qui viennent avec des valises. Donc je pense. C'était un peu particulier.
Alors, oui, c'est une attaque perpétrée une semaine jour pour jour après les attentats de Paris. Est-ce le Mali qui a été visé ou ça va au-delà ?
Je pense que les djihadistes, comme on les appelle, au Mali, il y avait, si vous vous rappelez bien, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Après, pendant l'occupation, il y avait un groupe qui s'appelait le Mouvement pour l'Unicité et le Djihad en Afrique de l'Ouest. Et après, il y avait le groupe de Iyad Agali en Sardine. Et tous ces mouvements ont été plus ou moins dispersés avec les frappes française de l'opération Serval, et ces gens-là se sont dispersés, ils se sont éparpillés dans l'ensemble du Mali, même pour faire même des attaques au sud de Bamako. Mais je pense que la même idéologie est partout, mais est-ce que c'est lié à ceux qui ont fait l'attaque à Paris? Ça, pour le moment, c'est très tôt pour le dire.
Et nous avons entendu Kassim tout à l'heure, si la revendication d'Al-Mourabitoun est authentifiée, que signifiera-t-elle cette revendication? Le groupe État islamique ou sa franchise africaine Boko Haram n'auront donc rien à voir avec l'assaut de Bamako?
Les Mourabitoun, pour le préciser, c'est le groupe de Mokhtar Belmokhtar, qui est l'ancien patron de ACMI. Mais Mokhtar Belmokhtar a quelques problèmes à l'intérieur de son groupe, les signataires par le sang, parce qu'il y a une partie de ce groupe qui veut rejoindre le groupe État islamique. Et Mokhtar Belmokhtar, l'Algérien, lui, pour le moment, il ne veut pas. Il avait pignon sur rue au nord du Mali depuis les années 90. Et même à un moment donné, il s'aventurait. Il est sorti en 2012 pour venir dans des villes comme Tombouctou et Gao. Mais depuis, on a annoncé plusieurs fois la mort de Mokhtar Belmokhtar. Mais en tout cas, apparemment, il est encore en vie.
Idriss, je vous remercie. Idriss Fall, notre collègue de VOA Afrique.
Cette édition spéciale se poursuit. Sur son compte Twitter, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a très vite salué le professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali et remercié les pays amis pour leur assistance, selon ses termes. Quant à son homologue français François Hollande, il avait auparavant assuré que la France ferait en sorte d'obtenir la libération des otages. Nous l'écoutons.
Je suis en relation permanente avec les autorités maliennes. Je viens d'avoir le président Ibrahim Keïta du Mali et je lui ai assuré que la France était disponible pour apporter aux forces de son pays le soutien nécessaire. L'assaut a été donné et nous ferons en sorte, avec les moyens qui sont les nôtres sur place, de pouvoir obtenir la libération des otages. Une fois encore, les terroristes veulent marquer de leur présence barbare tous les lieux où ils peuvent tuer, où ils peuvent impressionner et massacrer. Donc nous devons, une fois encore, tenir bon et montrer notre solidarité à l'égard d'un pays ami, le Mali. C'est d'autant plus important que dans cet hôtel de Bamako, il y a des touristes, des responsables d'entreprises de nombreuses nationalités. Parce qu'il s'agissait d'aller vers un pays qui a besoin d'être soutenu dans sa reconstruction et dans son développement. Merci.
Voilà, c'était le président français François Hollande.
Des blessés ont été admis aux urgences de l'hôpital Gabriel Touré, où s'est rendue la ministre malienne de la Santé, docteur Marie-Madeleine Togo.
Nous sommes au service des urgences de l'hôpital Gabriel Touré, qui a reçu 6 blessés, dont un a déjà été opéré et les 5 autres sont en cours de prise en charge. En termes d'organisation, comme vous le constatez derrière moi, tout le dispositif a été mis en place, non seulement au niveau de l'hôpital Gabriel Touré, mais tous les établissements de santé de Bamako, en tout cas, sont en situation pour recevoir d'éventuels blessés. Et nous prions le Tout-Puissant vraiment pour que le nombre de blessés se limite vraiment à ceux qui sont déjà là. Mais techniquement, nous sommes en position pour gérer le maximum en cas de blessés.
Alors, les blessés, est-ce que vous avez leur nouvelle, leur état?
Je les ai vus. Et comme j'ai eu à dire, les spécialistes sont en train de s'occuper vraiment de ces blessés-là. Un a été opéré, les autres sont en cours de traitement. Pour le moment, Dieu est avec nous vraiment. Quand nous voyons tout ce que nous avons eu à subir depuis 2012, on va dire un grand merci au Tout-Puissant qu'il continue à protéger. Il le fait. On prie pour que Dieu protège toujours le Mali et tous les Maliens. En de pareilles situations, on fait tout pour ceux qui viennent de l'extérieur ne vivent pas, en tout cas, nuire le bon déroulement de la prise en charge. Du coup, donc, la protection civile s'occupe naturellement de nous amener les blessés. Mais au niveau des forces de l'ordre aussi, nous avons un cordon pour essayer de contenir d'éventuels curieux ou bien ceux qui voudraient en tout cas venir pour avoir les nouvelles des blessés. Mais d'une manière générale, comme ça se fait normalement, nous avons la liste et la direction est à la disposition pour ceux qui ont eu vent peut-être de blessés. Les listes sont disponibles avec la direction de l'hôpital pour que l'information puisse être donnée rapidement aux familles.
Docteur Marie-Madeleine Togo, ministre malienne de la Santé.
Et à présent, des témoignages de 2 otages qui ont pu être exfiltrés de l'hôtel par les forces de sécurité.
Donc les militaires ont été très professionnels, ils nous ont bien encadrés. J'ai essayé un truc, mais bon, après, le plus sage, parce qu'il y avait les militaires de l'autre côté, ils m'ont dit rester dans la chambre. Donc finalement, on est resté dans la chambre, ils sont venus, ils ont tapé en disant c'est les forces de sécurité. Et puis, j'ai regardé, c'était bien eux, après je suis sorti. Donc ils ont récupéré tout l'étage, je pense. Il y en a qui étaient dans leur chambre, mais après ils ont fait une deuxième montée.
à fait. Au début, je pensais que c'était des pétards ou quelque chose comme ça. Je ne pensais pas que c'était une prise d'otage. Ensuite, ça a continué, ça a continué. Ensuite, on entendait l'alarme de l'hôtel. Moi, je suis sorti un instant même, parce que je ne pensais pas que c'était une prise d'otage. Je suis sorti pour aller au resto. J'ai pris le couloir et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de fumée. Ensuite, je suis retourné dans ma chambre quoi, pour rester là-bas. Et à un moment donné, il y a les forces maliennes qui sont venues nous récupérer. Quoi. Ils nous ont dit que c'est là. Ils ont frappé à nos portes pour dire que c'est la sécurité. Ensuite, on était un petit groupe. Ils nous ont évacués par les escaliers. Quoi. Dieu merci, on est sain et sauf actuellement. Quoi.
C'était le témoignage d'otages qui ont pu être exfiltrés de l'hôtel à Bamako.
Le procureur de la République du tribunal de la commune 6, Boubacar Sidiki Samake, suivait également la situation de très près depuis ce matin. Nous l'écoutons.
Nous savons que depuis ce matin, déjà à 6 heures, l'hôtel Radisson fait l'objet d'une attaque par un certain nombre d'individus qui ne sont pas encore identifiés. Mais tout porte à croire qu'il s'agit d'attentats terroristes. Comme vous le voyez, je suis là avec les principaux enquêteurs. Donc déjà, nous avons ouvert une enquête pour ça. Et dans les prochaines heures, sinon les prochaines minutes, nous pourrons vous dire, vous donner assez d'éléments sur cette situation assez grave.
Boubacar Sidiki Samake, procureur de la République du tribunal de la commune 6.
Évidemment, un travailleur de l'hôtel n'a pas pu se rendre au travail ce matin. Pour son témoignage, Idriss Fall a joint Ibrahim Yatassaï, vendeur d'objets d'art, dans le hall du Radisson à Bamako.
Je suis pas allé au travail parce que j'ai appris les mauvaises nouvelles. Hein. Ce matin, on m'a appelé et qui a dit que vraiment il y a eu des trucs au Radisson. Hein. J'ai des amis qui m'ont appelé en ville pour me demander de ne pas que je vais aller au travail parce qu'il y a eu des bandits qui ont attaqué. Moi aussi, je suis là-bas, donc je suis à la maison. Hein.
Les travailleurs, vous les connaissez, ceux qui sont détenus en étage à l'hôtel, non?
Non, c'est pas travail. Ils ont pris tout le monde. Les travailleurs, ils ont pris les clients, pas tout le monde. Hein. Je demande.
Que pensez-vous de la sécurité de l'hôtel? Parce que l'hôtel, quand même, il y a des gardes, non?
L'hôtel est très sécurisé. Il y a beaucoup de sécurité. Il y a tellement de sécurité. C'est très fort, voilà. Ils ont venu à partir de là qu'on ne connaît pas, donc ils ont entré, ils ont tiré comme ça.
Vous-même, vous êtes musulman, est-ce que vous pensez que des musulmans peuvent faire ça?
C'est pas bien. Un vrai musulman ne fait pas ça. Voilà. Un vrai musulman ne peut pas appuyer sur ton frère musulman. Si on est un croyant.
Vous vendez des objets d'art là-bas. Est-ce que vous avez eu des pertes de vos affaires là-bas, dans le hall?
Pour le moment, je ne suis pas encore allé dans le hall. Je ne suis pas entré là-bas.
C'était un employé de l'hôtel Radisson à Bamako.
Le journaliste El Hadj Amadou Diop, collaborateur de la chaîne nationale du Mali, ORTM, s'est rendu ce matin vers 8h, heure de Bamako, pour couvrir l'événement. Nous l'écoutons.
Oui, au fait, je suis sorti ce matin justement pour aller rencontrer des collaborateurs expatriés qui sont justement à Bamako dans le cadre de la production d'un film. Mais ces derniers étaient dans un autre hôtel de la ville. Donc c'est en allant sur ces lieux que j'ai été averti de ce qui s'est passé au niveau de l'hôtel Radisson. Donc je suis naturellement passé. J'ai essayé naturellement de me rapprocher au plus pour voir ce qui s'y passait. Et nous sommes aux environs de 8h30, 9h, et il y avait encore des coups de feu, il y avait beaucoup de mouvements, et les forces de sécurité maliennes avaient déjà commencé à délimiter un périmètre de sécurité.
Est-ce qu'il n'y avait que les forces de sécurité maliennes qui étaient présentes?
Bon, en ce moment précis, ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y avait quelques badauds, mais il n'y avait que des forces de sécurité maliennes. Donc, après analyse, on s'est rendu compte que c'était la DGSE, c'est-à-dire les services de sécurité d'État. Après, il y avait la gendarmerie et puis il y avait le FAMA, les forces armées maliennes. Plus tard dans la journée, on a vu arriver des membres de sécurité française et aussi américaine plus tard.
Est-ce que vous avez eu des informations concernant le nombre de preneurs d'otages et d'autres informations complémentaires?
Bon, les informations que j'ai pu avoir, c'est qu'ils ont pénétré avec des plaques pour avoir parlé avec quelques agents de sécurité sur place. Donc ils ont réussi à pénétrer avec une voiture immatriculée avec des plaques de diplomatiques. Donc ce qui fait que les voitures n'ont pas été contrôlées. Ils avaient effectivement, ils avaient aussi en leur possession des documents diplomatiques. Et des personnes à l'intérieur avec qui on a eu la chance d'échanger par SMS ou des choses comme ça, nous ont dit qu'ils ont pu constater entre 6 et 8 assaillants.
Est-ce que vous avez eu l'occasion de parler avec quelques otages qui ont été libérés?
Oui, les otages qui ont été libérés, notamment l'artiste guinéen Sekouba Bambino, avec qui je n'ai pas parlé directement, mais des gens que je connais se sont allés près de lui et lui ont posé des questions. Il a dit que c'était des gens qui s'exprimaient plutôt en anglais.
Est-ce que ce sont les preneurs d'otages eux-mêmes qui ont décidé de libérer les otages ou bien comment est-ce que ça s'est passé? Est-ce que les otages ont donné des informations sur quels critères ils se sont basés pour choisir ceux qui étaient libres de partir ou ceux qui allaient rester là-bas?
D'après les informations qu'on a eues, ils n'ont pas pu gérer tout le monde. Parce que l'hôtel Radisson est fait de telle sorte qu'il y a beaucoup d'entrées, il y a des entrées sud, ouest, et tout autour de l'hôtel, il y a des boutiques. Donc ces boutiques aussi ont leurs entrées, ont leurs sorties. Et c'est par ces sorties-là que beaucoup ont réussi à s'échapper, et aussi avec l'intervention des forces armées qui ont lancé l'assaut. Et dès que l'assaut a été lancé, donc les preneurs d'otages se sont retirés vers les étages supérieurs, permettant aussi par la même occasion à d'autres personnes qui étaient retranchées dans leur chambre, qui avaient entendu et compris ce qui se passait grâce à la télévision, ont pu profiter, sortir, et avec l'aide des forces de sécurité maliennes, ils ont réussi à s'échapper de la sorte.
Qu'est-ce qui se passe actuellement, maintenant, au Radisson?
Actuellement, à l'heure où je vous parle, il n'y a absolument, selon les informations transmises par la FAMA, les forces armées maliennes, il n'y a aucun otage présent dans l'hôtel. Donc il ne reste que les assaillants qui résistent au niveau du cinquième étage, et les forces maliennes, avec l'aide de leurs amis, de la France et des États-Unis, ils sont là pour les déloger.
Le journaliste malien Ella Jamadou Diop, joint par Issia Kaba.
Et en mars dernier, une attaque visant un restaurant de Bamako avait fait 5 morts. Cet acte terroriste avait mobilisé les forces de sécurité maliennes. Comment expliquer alors que cette fois-ci, des hommes armés aient pu s'en prendre à un grand hôtel au centre de Bamako? Bagassi Koura a posé la question à Shashana Takiou. Il est le directeur de publication du journal 22 septembre.
Bon, on peut expliquer ça par le fait que les djihadistes, Al-Qaïda, l'État islamique, tout ça là, ils ont la même philosophie. Ah, c'est vraiment de tuer au nom d'une prétendue islam. C'est dans ce cadre-là qu'il y a eu les attentats de Paris. Et dès qu'il y a eu les attentats de Paris, les autres organisations islamistes, salafistes, qui pullulent un peu le Sahel, donc se sont également mises en œuvre pour appuyer ce qui s'est passé à Paris et pour faire parler d'eux. Parce que tous les groupes terroristes ont quelque chose en commun, c'est de tuer, mais tuer en premier lieu les Européens.
Est-ce qu'après l'attaque du restaurant, là, les mesures prises par les autorités, notamment sur le plan sécuritaire, n'ont pas été suffisantes?
Non, il n'y a pas eu de mesures fortes qui ont été prises par Bamako. Il y a eu seulement quelques patrouilles, hein, la visite de certaines voitures en circulation. Il n'y a pas eu de mesures fortes depuis cette attaque. Il n'y a pas eu de mesures fortes prises par les autorités de Bamako. On a essayé de rassurer les gens politiquement avec la littérature. Et puis c'est tout. Il n'y a eu aucune action de grande envergure pour enrayer ce terrorisme en dehors de la sortie récente de forces armées dans la région de Mopti. Où ils ont ratissé. Sinon, à Bamako, il n'y a pas eu de mesures fortes très visibles.
Oui, et on a aussi parlé de la formation des forces du Sahel, au Mali, au Burkina Faso et au Niger aussi, par des forces étrangères, notamment françaises et américaines. Qu'en est-il?
Bon, ces formations-là, il y a des formations régulières. Vous savez que la problématique de la sécurité n'est pas seulement au niveau de la formation. Bien sûr, il faut la formation. Il faut la formation. Il faut les renseignements, il faut également l'équipement. Donc il faut les trois, la formation, l'équipement, le renseignement. Et nos pays africains, le Mali, le Burkina, les pays voisins, il n'y a pas une véritable entraide au niveau des renseignements. Ils ne coopèrent pas entre eux. Un. Deux, nos hommes ne sont pas suffisamment équipés. Et quant à la formation, je pense qu'à ce niveau-là, on peut avoir un peu confiance à nos hommes par rapport à la formation.
C'était Shahana Takiou, directeur de publication du journal le 22 septembre au Mali.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Et maintenant, un tour d'horizon de l'actualité ailleurs en Afrique et dans le reste du monde. Avec vous, Nathalie.
Oui, l'écrivain congolais Alain Mabankou a appelé ce vendredi le président Denis Sassou Nguesso à ne pas s'accrocher au pouvoir malgré la nouvelle constitution qu'il y autorise. Il faut qu'il favorise une transition vers une nouvelle génération, rapporte l'AFP. Il s'en est aussi pris à l'opposition congolaise, disant qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et l'accusant de vivre aux dépens du gouvernement, donc sa parole n'est pas forcément légitime selon lui. L'opposition a pris en otage la jeunesse congolaise. Elle a fait croire que son heure était venue de gouverner et a emmené les jeunes dans la rue. Puis, et quand ça a commencé à crépiter, l'opposition s'est cachée et a laissé la jeunesse congolaise sous les balles, a-t-il dénoncé en marge d'une interview sur son nouveau roman. Et l'auteur souligne qu'il parlait en tant qu'écrivain et en tant que Congolais et non pas en tant que candidat. La Russie a de nouveau bombardé aujourd'hui des positions en Syrie, a annoncé le ministre russe de la Défense Sergueï Shoigu. Une cinquantaine de frappes aériennes ont visé la province orientale de Deir ez-Zor, où le groupe État islamique est actif, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, faisant état d'une intensité inédite. Ces raids ont fait au moins 8 morts, d'après l'OSDH. Le Conseil de sécurité doit voter ce vendredi après-midi une résolution française qui autorise toutes les mesures nécessaires pour contrer le groupe État islamique. Suite aux attentats de Paris, les Européens ont décidé de renforcer immédiatement les contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne, y compris pour les citoyens européens. Et la Commission va proposer avant 2016 une révision des règles de Schengen, rapporte l'AFP. Réunie à Bruxelles, les ministres européens de l'Intérieur et de la Justice se sont engagés à adopter avant fin 2015 un fichier de données sur les voyageurs aériens et à renforcer la lutte contre le trafic d'armes dans les Balkans. Selon un nouveau bilan, les attentats de Paris du 13 novembre ont fait 130 morts. Un renseignement marocain a contribué à mettre les enquêteurs français sur la piste du belgeo-marocain Abdelhaïm Abaoud, cerveau présumé des attaques et qui a été abattu lors d'un assaut mercredi à Saint-Denis. Et le président François Hollande a remercié aujourd'hui le roi Mohamed VI du Maroc pour son assistance à l'issue d'une discussion à l'Élysée aujourd'hui. Le ministre de l'Intérieur français Bernard Cazeneuve a dit que la France maintiendrait le contrôle à ses frontières aussi longtemps que la menace terroriste le nécessitera, a-t-il souligné.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Corée du Nord et la Corée du Sud ont convenu de tenir des pourparlers la semaine prochaine dans le cadre d'efforts visant à relancer un dialogue de haut niveau entre les deux gouvernements. Le comité de Pyongyang pour la réunification pacifique de la péninsule coréenne, qui gère les relations Nord-Sud, a proposé jeudi les pourparlers. Le ministère de l'unification de Séoul a déclaré vendredi qu'il a accepté l'offre en précisant que les pourparlers auront lieu le 26 novembre dans le village frontalier de Panmunjom. Et l'espion israélien Jonathan Pollard a été libéré sur parole vendredi après avoir passé 30 ans dans une prison américaine, a annoncé dans un communiqué le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Cet ancien analyste du service d'investigation de la US Navy a été condamné à la prison à vie en 1987.
Et voilà, je vous rappelle l'information principale de cette édition spéciale du Monde aujourd'hui. La prison prise d'otage à l'hôtel Radisson de Bamako, lancée ce vendredi matin par des individus armés et terminée. Selon notre correspondant Kassim Traoré à Bamako, le bilan serait de moins 20 morts. Nous suivons cette situation pour vous sur le site internet de VOA Afrique et sur notre page Facebook. Lionel Gaïma a dirigé la mise en onde. Merci à toute l'équipe de VOA Afrique. C'était Nathalie Barge et Jacques Aristide dans la capitale américaine. À bientôt.